Nous sommes le lundi 6 février et vous écoutez le 22e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. LudicBazar.com, c'est le choix, les prix, la qualité et plus de 14 000 références en stock. Du discount, du neuf et de l'occasion. Salut les joueurs, salut les joueuses, salut Jérémy.
Salut Olivier.
Tu vas ?
Un petit peu malade. On se remet, voilà, d'un week-end un peu malade.
Ouais. Bon, on est le 6 février.
Oui.
Et on n'est pas le 13 comme on aurait dû enregistrer.
Bon, on est comme ça maintenant, on ne peut plus se passer d'enregistrer toutes les semaines.
Oui, je vais avoir du mal à suivre au montage. Mais bon. Donc, quelques chamboulements dans notre agenda. On ne sait pas trop comment on va faire pour les prochains numéros, puisqu'il y a Cannes qui approche.
Ouais, dans deux semaines. On y sera.
Et donc, ça va être compliqué.
Mais c'est pas grave. Il y aura peut-être le prochain, sera peut-être dans trois semaines d'enregistrement.
Je ne sais pas.
Ou dans quatre semaines.
Enfin, de toute façon, on va continuer à vous mettre des choses entre les oreilles. Ne vous inquiétez pas. On a plein d'idées. Monsieur Crunch, j'espère qu'il va nous répondre. Étant donné que...
Il peut pas nous avoir encore entendu du podcast de la semaine dernière, voilà, parce qu'on l'a pas encore mis en ligne.
Donc on sait pas. On sait pas. Bon, un grand merci, un petit retour sur les commentaires sur iTunes. Un grand merci à Stéphane Cyrulik qui nous a mis 5 étoiles, qui nous a mis un gentil commentaire, ça c'est super sympa. 41 notes, est-ce qu'on atteindra les 100 avant la fin de l'année ?
Oh, c'est dur, c'est quoi fin de l'année ? Fin de la saison, tu veux dire, en
juin ? Non, fin 2012, avant la fin du monde, quoi.
Ah, ouais, enfin, j'y crois pas à la fin du monde en 2012.
Moi. Ouais, mais...
Il y a tellement de bons jeux qui sont prévus en 2013-2014, ça m'embêterait vraiment.
J'aimerais bien croire à 100 notes sur iTunes avant la
fin. Ah, 100 notes, par contre, ah, oui.
Bon,
eh ben, écoutez... Eh ben, tiens, c'est ça. Aidez-nous à sauver le monde. Si on a plus de 100 notes, le monde reste entier.
Save the cheerleaders.
Ouais. Alors plutôt des commentaires, parce qu'en fait on a 27 commentaires et 41 notes.
Ouais. Donc laissez une
note. Donc mettez vraiment des commentaires en plus des notes.
Et puis voilà, sauvons le monde. Au programme de ce numéro 22, pas mal de choses. D'abord des brèves avec notamment les sorties de Nuremberg avec de nouveaux aléas.
L'arrivée de String Railway, dont on vous avait déjà parlé. Olivier revient sur son Paperclip Railway, ce qu'il a ramené de Essen.
Et puis des Amandeurs avec la réédition de Märklin, mais avec une version allemande.
Yeah. Et puis, en restant chez les Allemands, Michel Chart qui propose quelques cartes promotionnelles pour ces jeux.
Et puis, on va vous parler aussi de la campagne pour Steam Torpedo Récif d'Acier. Ensuite, Gus fera son intervention, celle qu'on a loupée la semaine dernière.
Et puis, le concours.
Le concours, c'est le concours.
Le top concours qu'on tisse depuis longtemps pour vous. On a dit que c'était une tuerie. C'est un concours pour gagner des Sherlock Holmes Detective Conseil.
Et c'est vraiment une tuerie. Alors, les événements, l'ouverture d'une boutique et puis quelques festivals à Saint-Herblain et les 24 heures du jeu de Ludoperche.
Et puis enfin, on finit avec une rubrique écran un petit peu light aujourd'hui.
Ouais, light.
Parce que, voilà, on n'a pas trop de news et puis parce qu'on vous a concocté un dossier que vous écouterez plus tard.
Un dossier coop qu'on a enregistré ce soir mais qu'on mettra en ligne un peu plus tard. Bon, on n'est pas là pour dire que des bêtises. Jérémy, l'actu.
Non, je suis désolé, Olivier. Sauver le monde, c'est pas des bêtises.
Ah oui, c'est pas faux. Donc, première actu. Vous connaissez Dixit ? Vous connaissez Dixit Odyssey et bientôt vous pourrez acheter Dixit Jinx et puis vous pourrez accessoirement jouer à Dixit Jinx. Alors, la première chose qu'on peut dire sur Dixit Jinx, c'est déjà que ce n'est pas illustré par Marie Cardois, illustré par Dominique Erard.
Ah, ça va, ça reste.
Oui, mais on change radicalement de genre entre Dixit et Tuck, on a quelque chose de très joli, très un petit peu cartoon. Là, on a quelque chose qui change radicalement, qui fait beaucoup plus art moderne.
Ah oui, carrément, oui. On se croirait, oui.
Et on reste dans Dixit, c'est-à-dire qu'il faut retrouver la bonne carte. Chacun va avoir une carte parmi 9 et on pourra, a priori, mimer, on pourra chantonner, on pourra dire des choses à propos de la carte qu'on veut faire deviner. Les autres devront pointer le plus vite possible la carte qu'on veut faire deviner. Donc je vous renvoie vers l'illustration de Dominique Erard. Ça va être présenté à Cannes lors du Festival International des Jeux qui a lieu la semaine prochaine. Et puis ben voilà. Donc si vous aimez Dixit, si vous aimez Dixit Odyssey, ben, je ne sais pas si vous aimez. En fait, je ne sais pas.
Quand je vois les illustrations des cartes, il y en a, je serais bien en peine pour chanter quelque chose. Mais bon.
Ah, et quand j'ai dit que c'était de l'art abstrait, c'est de l'art abstrait.
Ouais.
Ah, voilà, Libellude continue à voir ce que ça va donner avec Seasons, parce que là ils sont toujours dans la même lignée de du jeu un peu casual, un petit peu.
Oui, carrément.
Un peu moins casual avec cette version-là. Dixit Jinx, c'est à partir du 8 ans pour 3-6 joueurs, 20 minutes, et a priori, je sais pas, 20-25 euros, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup.
Et puis, alors que vous avez sans doute déjà reçu dans vos boîtes aux lettres les catalogues printemps-été de
Edge,
ouais, vos fringues préférées, le catalogue automne-hiver de Edge vient de paraître.
Ça me rappelle, je sens comme un flash in the back, c'est Back to the Future. Oh. Ça me rappelle l'année dernière quand on a commencé Proxyjour, on a parlé des catalogues et on a parlé de, et je suis sûr. Ah non, c'était pour, c'était l'hiver dernier. T'as fait la même blague, mais pour
ça marche toujours, hein.
Moi, vas-y. T'écoute avec attention maintenant.
Non, mais c'est juste pour annoncer qu'il est sorti. Alors, faut quand même profiter. Non, mais pour une fois, c'est pas nous qui sommes en retard, hein, puisqu'il est sorti le 30 janvier. Donc, franchement, c'est pas nous qui sommes en retard. Donc, vous pouvez le télécharger en PDF. Sinon, vous pouvez le retrouver sur papier. C'est un papier agréable, c'est un papier glacé dans vos boutiques préférées. Alors, évidemment, hein, ça fait un peu. C'est un peu un magazine catalogue. Hein, c'est fait pour vous donner envie d'acheter les jeux Edge. Mais moi, j'aime bien parce que ça présente quand même leurs jeux sous des angles sympathiques, sans qu'on ait l'approche de fond, on va dire, comme il y a sur le magazine Hystari, mais Hystari, ils n'en ont fait qu'un numéro.
Ouais, je pense qu'il va en sortir un autre et peut-être qu'il y aura, un petit peu de matière. Je ne sais pas, mais vu la sortie de Sherlock, il va pas peut-être y avoir. Allez, je me lance. Je pense que dans le prochain magazine Hystari, il y aura peut-être une énigme pour Sherlock. Bah, ou pas, enfin, on verra.
C'est pas grave sinon, si on s'est trompé. Enfin voilà, donc le catalogue Edge est disponible dans les boutiques ou bien en PDF sur le site de Edge.
Du 2 au 6 février 2012, s'est déroulé le Salon de Nuremberg. Le Salon de Nuremberg, contrairement au Salon d'Essen, c'est un salon tout à fait professionnel. On l'a déjà dit plusieurs fois dans Proxyjeux, c'est le salon où les professionnels d'édition vont montrer aux différents distributeurs et aux acheteurs ce qu'ils vont pouvoir mettre sur leurs étagères tout au long de l'année 2012. Donc, c'est pour ça qu'il y a les roadmaps qui sortent actuellement. Je sentais que tu voulais...
J'allais dire, et surtout à Noël, en fait.
Et surtout à Noël. Et ce qui nous intéresse, c'est pas forcément Noël, mais plutôt ce qui va sortir premier semestre et puis pour Essen, et notamment chez des éditeurs comme Alia, qu'on surveille avec attention. Et chez Alia, il y a deux choses qui sont annoncées. D'abord, la première chose, c'est Vegas, Rudiger Dorn. Et c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Oui, à partir de 8 ans. Donc là, on est vraiment du jeu familial, du jeu casual. Le background, c'est Las Vegas avec des casinos. Les casinos ont une certaine valeur. On lance une boîte de dés et on va parier sur les différents casinos. Ça a l'air quand même assez simple.
C'est toujours pour ça qu'il y a 8 ans.
Oui, toujours 8 ans, oui, tout à fait. Et ça sort un petit peu du cadre pour lequel on connaît Aléa, je pense. On parlait des châteaux de Bourgogne, moi je pense à Notre-Dame, à l'année du dragon, enfin c'est quelque chose quand même un petit peu, même quand ce sont des petites boîtes, c'est quand même un peu du lourd.
Aléa, c'était quand même Puerto Rico.
Et le deuxième jeu, c'est Saint-Malo. Donc après Las Vegas, Saint-Malo. Et Saint-Malo, c'est à peu près pareil. C'est toujours assez léger, assez familial. Toujours à partir de 8-9 ans. Et pour 2 à 5 joueurs. Et là, on se retrouve dans le mécanisme de Rolls Through the Ages, qui est un mécanisme où on va lancer des dés, mais pas forcément pour miser sur les casinos comme pour Vegas, mais on va utiliser ces dés pour avoir de la nourriture, avoir de la population, avoir des bâtiments. Et le petit plus de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir dessiner sur ses propres plateaux individuels et on va pouvoir utiliser son petit marqueur pour définir ce qu'on a comme population, comme développement, comme chose comme ça. Aléa qui annonce deux jeux, Saint-Malo et Vegas. Donc j'ai dit Saint-Malo, c'est Inca et Marcus Brand que je ne connais pas. Rudiger Dorn, il a fait quoi déjà?
Il a fait Goa, dont on va parler dans pas longtemps. Ah, il a fait Emerald, on a fait plein de belles choses.
Et il a fait Vegas.
Il a fait Jumbo aussi, en jeu à deux.
Un tout petit peu plus fort.
Il a fait Jumbo aussi.
D'accord. Ok, bon, eh bien, nous verrons dans quelques mois ce que ça donne.
Alors moi, j'enchaîne avec Steam Torpedo.
Enchaîne. Ah, Steam Torpedo.
Je crois qu'on n'a pas parlé dans le dernier numéro. C'est un peu un fil rouge comme plein d'autres jeux qui nous tiennent à cœur. Et en fait, il y a une campagne qui est disponible en téléchargement sur leur site, qui est récif d'acier.
Moi, j'ai du retard avec Steam Torpedo, il faut que j'achète R&D.
T'as toujours pas R&D. Tiens, non. Bah d'ailleurs, j'ai vu, je suis pas encore allé lire, mais sur Ludigome, ils ont publié un avis sur R&D.
Ah bon ?
Ouais.
On en a déjà parlé, mais toi, qu'est-ce que tu penses des nouveaux compartiments ?
Dans l'extension R&D, eh ben, oui. C'est comme dans comme toute extension, il y en a qui sont vraiment, qui ont l'air vraiment intéressants et d'autres un peu moins. Par contre, ça répond bien à une question que je m'étais posée un moment, c'est comment ils équilibrent les, le poids, enfin l'importance d'un, la puissance, pardon, on va dire, d'un compartiment. Parce qu'il y a des compartiments qui peuvent être beaucoup plus puissants, tu vois, qui avec un tir peuvent faire 3 dégâts à d'autres qui en font que 1 ou des choses comme ça. Je me demandais comment. Et en fait, bah, c'est fait notamment au niveau des points de structure. Parce que dans un jeu comme Magic, une carte puissante, elle va coûter beaucoup de mana ou elle va avoir des contraintes.
Tout à fait.
Voilà, ou bien dans d'autres jeux, tu auras des contraintes pour les intégrer dans la façon de construire ton deck.
Mais là, la contrainte, c'est pas aussi l'oxygène ?
Ouais, du coup, c'est ça. Du coup, avec les points de structure et l'oxygène, ils peuvent le faire comme ça. Ouais, mais t'as pas de contrainte dans ta construction de ton sous-marin proprement dit. Tu dois mettre.
Oui, tout à fait. Tu fais ce que tu veux.
Donc, la seule contrainte qu'il peut faire, bah, effectivement, c'est sur l'oxygène. Mais même tenir 10 tours à Steam Torpedo, de toute façon, la partie, elle dure jamais plus de 6. Hein. Alors, tu peux encore tenir, quoi. À part quand t'as des pertes.
Et il existe déjà un metagame. Tu as déjà des cartes qui sont plus en vue que d'autres.
Je sais pas, aller voir sur les forums.
Ah là là. C'est ta mission. Pour la prochaine fois que tu parleras de Steam Torpedo, il faudra que tu regardes ça.
Ok, bon bah, j'irai voir. Je peux te parler d'autres metagames, de Magic, de tout ça, mais celui-là...
Non, mais c'est justement pour ça. Enfin, on s'est dit que Steam Torpedo, c'était vraiment un jeu qui se prêtait au metagame, avec des cartes qui seraient mises en avant, des cartes qui seraient bannies, donc, enfin des compartiments, pardon. Bon, je t'écoute. Alors, donc, tu me parlais d'une campagne.
Voilà, c'est une campagne donc pour Steam Torpedo, pour deux joueurs, évidemment, qui nécessite uniquement le pack d'immersion. Alors je l'ai pas essayé.
Ah, c'est
encore.
Bien ça.
Mais je me demande si c'est pas celle qui était disponible qui était disponible avec le magazine Ravage dont on a parlé il y a 2 mois à peu près. Et que voilà, maintenant donc elle est disponible en téléchargement. En gros, c'est des missions qui vont permettre de rapporter de l'argent et puis ensuite ça va permettre d'acheter des compartiments pour améliorer le sous-marin face à l'ennemi. Bon, un petit peu win to win sans doute. Mais ça va, voilà, c'est juste de toute façon fondamentalement la campagne, elle va pas changer grand-chose à ta façon de jouer, enfin, sur la résolution d'une partie directement, mais c'est sur l'enchaînement des scénarios que ça peut avoir un effet.
Voilà, okay. Donc,
moi, je trouve que ça rajoute une petite dimension sympathique pour ceux qui aiment bien le jeu et qui veulent changer un petit peu.
Et puis aujourd'hui, on est un petit peu dans la redite. On avait parlé de String Railways il y a pas très très longtemps.
2 épisodes.
Ouais, et puis tu m'avais posé la question, tu m'avais demandé si ils avaient relooké en fait le jeu, et la réponse est oui, au moins pour la version Fox Mind. J'ai trouvé un visuel, donc je le mettrai sur le site. C'est très très moderne, c'est très joli. Et bah voilà, donc ça a été relooké. Alors il y a un petit fail quand même, et tu l'as vu tout de suite en fait quand t'as vu l'illustration. C'est que la boîte est une boîte...
Pour moi, c'est pas un petit fail, hein, c'est une catastrophe.
Mais... rangeable.
La boîte est une grosse boîte bien longue. Enfin, elle est pas grosse, mais elle est longue seulement. Ouais. Elle a pas le format traditionnel, donc à ranger dans les étagères, c'est toujours un casse-tête.
Ou alors, si t'en achètes 4, faut en acheter 4, et là, comme ça, t'auras quelque chose de carré.
Peut-être que s'il démarre une collection, effectivement.
Donc, String Railways ressemble à un jeu que j'ai ramené de Essen et que j'ai mis longtemps à essayer, qui est Paperclips Railways. Parce qu'en fait... l'idée est le même, c'est qu'on va avoir des gares, et quel que ce soit avec des bouts de ficelle ou avec des longueurs de trombone, on va relier les gares les unes avec les autres. Et l'idée c'est que, alors là je ne vois pas, contrairement à Paperclip Railways, le paysage, parce qu'il y a un paysage, il y a un lac, il y a des montagnes. Bon, quoi qu'il en soit, c'est simple, c'est facile à mettre en place. Déjà, il n'y a pas de plateau à construire. Quoi.
Tu mets les gares au hasard sur le plateau, à peu près.
Alors, dans Paperclip Airways, tu en mets 4 pour délimiter l'extrémité. Quand tu es 4, 3 quand tu joues à 3. L'idée, c'est que tu vas pouvoir piocher des gares. Tu en as déjà en main quand tu commences à jouer. Et tu vas pouvoir échanger les gares contre des trombones. Mmh. Et les trombones vont te servir à créer des voies. Donc, une carte, 3 trombones. Après, c'est toi qui décides... Combien de trombones tu vas mettre entre deux gares. Tu vas toucher des points parce que chaque gare a une certaine valeur. Plus le nombre de trombones qui t'ont servi à relier ces deux gares. Moins un malus si tu touches les rails adverses ou par exemple la montagne ou les lacs. Et puis après, tout le jeu se fait par rapport aux gares. Parce qu'une gare va permettre d'avoir des points supplémentaires pour chaque gare qui est reliée, etc. Et puis tu as une contrainte aussi. Tu as différents types, 4 types de gares différentes. Qui représente un bout de la métropole, donc t'as les parcs, t'as les habitations, des maisons, des immeubles et puis des industries. Et en fin de compte, t'as des contrats. Donc c'est très 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 sympa, très facile à mettre en œuvre.
En fait, il y a pas de gestion. Enfin, c'est pas un jeu de gestion, quoi.
Non, c'est un jeu.
C'est un jeu de, je sais pas comment dire, placement. C'est pas vraiment du placement. Mais...
Alors, c'est un jeu de placement et puis c'est aussi un jeu de combinaison. C'est-à-dire qu'en fonction des cartes que tu vas mettre.
Ouais, ça fait des bonus.
Voilà. Et surtout, un truc auquel on n'a pas porté du tout attention, c'est que tu peux utiliser les gares adverses. Donc c'est très très malin, en fait. Donc voilà, ben, String Railways, prévu chez Foxmind pour la partie. Ils sont où chez Foxmind?
Ils sont en Belgique, je crois.
Et chez Asmodée, en France, bientôt.
Bah, on avait dit à la rentrée, je crois.
String Railways, 8 ans et plus. Pour 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes, et ça va sortir à la rentrée prochaine.
C'est une news qui nous concerne pas trop, mais on aime bien quand même en parler. C'est Days of Wonder qui annonce une version des Aventuriers du Rail Allemagne, mais elle sera uniquement dédiée au marché allemand et autrichien. Alors c'est pour ça que je dis que ça nous concerne pas forcément. C'est, a priori, c'est Asmodée qui estime qu'ils peuvent, qu'il y a un créneau pour ce type de jeu. Alors avant que je parle rapidement de l'Allemagne, il y avait déjà eu les Aventuriers du Rail Scandinavie qui au départ étaient sortis par Days, qui étaient sortis que pour le marché scandinave.
Oui.
Et finalement, je crois qu'ils l'ont adapté, et puisque moi j'ai pu en avoir un, donc je crois pas que ce soit de l'import, je crois qu'il est marqué en français. Donc
ouais,
il a
sauf
été...
que là c'est Merklin. C'est Merklin qui est adapté en fait.
Ouais.
Aïe aïe aïe.
Non mais c'est pour dire qu'à une époque ils sortent que pour un marché, et finalement il arrive comme sur le marché français.
D'accord.
Mais donc la version allemande, alors effectivement, hein, c'est Securus, c'était le troisième opus, c'est la Merklin édition qui.
Tu peux rappeler ce que c'est que Merklin peut-être?
Alors,
moi je dis Merklin, j'ai
Merklin,
Merklin
ouais, parce que c'est un allemand. Merklin, ouais. C'est une.
Ah, Merklin!
C'est une marque réputée de trains miniatures.
Tout à fait.
Voilà. Un peu comme Jouef, mais. Sauf qu'elle a survécu. Alors. La marque Jouef existe encore, mais elle appartient aux Chinois. Ça appartient aux Chinois. Donc après, au niveau de la carte de l'Allemagne, alors a priori, ce serait la même carte que Merklin Edition, ou en tout cas. Oui, pareil que Merklin, sauf qu'il n'y aurait plus la notion des marchandises et des voyageurs. Ce qui donne quand même tout le sel de la version Merklin, qui est sans doute la version la plus faite pour les gamers de toute la série Aventuriers du Rail. Par contre, la différence, c'est qu'ils auraient mis un thème qui serait plutôt sur l'Allemagne de début du XXe siècle. Parce qu'en fait, tous les Aventuriers du Rail sont sur le thème de début du XXe siècle. Alors ok, sauf que la carte de l'Allemagne, effectivement, n'était pas la même en début 1900 qu'elle l'était à fin 1900. Je me demande s'ils n'ont pas fait une version avec juste l'Allemagne de l'Ouest, tu vois.
Tu veux dire qu'il y aurait une petite adaptation de l'histoire, du révisionnisme?
Non, 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 j'en suis pas là, mais effectivement, la carte de l'Allemagne, il y a eu pas mal de découpages. Il faut peut-être.
Le point Godwin, ça y est, on a atteint le point Godwin.
Voilà. Voilà. Non, mais il n'y avait pas. La Pologne n'existait pas avant 1914. Alors peut-être qu'ils l'ont fait juste entre les deux guerres, ouais. Tu vois. Je sais pas.
Bon, bah écoutez, on va essayer de voir un visuel et puis on va essayer de récupérer. Dès qu'on peut trouver la carte, on vous en reparlera.
Voilà, j'ai pas trouvé la carte.
En aparté, si vous n'avez jamais mangé de bifi de votre vie, c'est un peu comme les Rolex. Je pense que vous êtes passé à côté de vraiment quelque chose de grandiose.
Alors les pauvres gens, ils savent pas ce que c'est que les bifi s'ils n'ont pas entendu le dossier Essen.
Oui, donc on vous mettra ça. Je viens de prendre une photo parce que nous avons la chance. Nous avons un bon samaritain qui nous a rapporté un display de bifi.
50 bifi.
5 ans.
50.
50, oui, 50 bifi.
Ça va pas durer 5 ans, non.
Et donc voilà, si vous entendez des bruits de... Voilà, c'est ça.
Alors je peux pas vous faire sentir l'odeur.
En fait, si vous entendez des bruits de capote, c'est Jérémy qui mange sa bifi.
Oui, parce que la bifi, c'est un petit peu une saucisse sous vide, en fait. On ouvre et ensuite, il faut pousser pour la faire sortir de son emballage.
C'est ça.
C'est un petit peu spécial.
C'est ça, c'est tout à fait spécial. On connaît Michael Schacht. Alors, je sais pas que tu m'as dit tout à l'heure...
Schacht.
Michel. Michael Schacht. On le connaît surtout pour Zoo le Reto. Et les nombreuses déclinaisons de ce jeu, qui est d'ailleurs un fort bon jeu. Et donc il a mis en téléchargement une série de goodies pour Coney Island, une carte Ferris Wheel, pour Gold, une carte de scoring, et pour Valdora, un plateau, le plateau numéro 20. Bien entendu, comme d'habitude, je vous mettrai tout ça sur le site, vous pourrez aller voir, vous pourrez télécharger si vous avez Coney Island, Gold ou Valdora. Je vous rappelle l'adresse du site, podcast.proxy-jeu-x.fr.
Et d'une manière générale, Michel Chart, c'est un auteur qui développe tout le temps, enfin qui rajoute tout le temps des goodies comme ça en libre téléchargement sur son site.
Il avait fait un petit jeu pour Chunke.
Ouais, il avait fait Chunke, ouais, qui après avait été édité. Avec un gros bug dans sa réédition édition chez Queen Games, donc finalement, ils vont mieux fabriquer. Elle est toujours disponible en téléchargement.
C'est vrai?
Ouais, ouais, en fait, c'est pour ça, ce que je veux dire, c'est en plus des jeux dont on a parlé là.
Et ben, tu me donneras le lien.
Et ben, je te donnerai le lien. Ouais.
Alors, toi, auditeur qui nous suit depuis quelques temps, tu sais que tu n'auras pas le lien dans le billet.
Est-ce que tu dis oui? Ça m'engage pas, là, de le dire ça.
Ouais, c'est ça.
En France, on connaissait déjà le concours de Boulogne, des auteurs de concours de. Concours des créateurs de jeux de Boulogne-Billancourt. Il faut savoir que il y a un nouveau prix qui va démarrer cette année. C'est un nouveau concours. C'est le concours Europa Ludi. Alors c'est sa première édition et en fait il est du rapprochement donc du concours de Boulogne et du concours de création des jeux de société de la ville de Granollers en Espagne. Alors par contre ce que je sais pas c'est si le concours de Boulogne continuera. Je pense sans doute que chacun des concours vont rester, mais en plus ils font un concours un peu plus européen.
Alors moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était une année sur deux.
D'accord.
J'avais compris que... Enfin, toi, cher auditeur, si tu as des éléments, n'hésite pas à me contredire. Mais je pense que c'est une année à Boulogne et une année, justement, en Espagne. Et que le concours s'européanise.
D'accord, mais c'est ça. Mais ça reste un truc européen. D'accord,
oui, tout à fait.
Parce que le... Bon, j'ai un communiqué de presse, mais il ne nous dit pas tout. Alors, le principe, c'est jusqu'au 1er mars, tous les auteurs de jeux de société confirmés, émergents, n'importe qui peuvent envoyer leur dossier de participation. Donc dans la limite de 300 candidatures, les 300 premières candidatures qui sont réceptionnées. Et parmi tous ces 300, ils vont retenir 40.
Et là,
40
on
dossiers
parle...
qui vont être analysés, etc. sous la forme de prototypes.
Ah d'accord, et j'allais demander si c'était juste un dossier ou alors s'il fallait envoyer la boîte.
Dans un premier temps, tu envoies juste des dossiers. Enfin,
d'accord.
Et puis après, par mail. Et puis après, effectivement, je pense qu'ils te demandent les prototypes. Et ensuite, ils vont retenir 10 jeux qui seront mis en lumière. Et ensuite, voilà, il y aura 4 prix et un prix spécial qui seront décernés en septembre 2012. Et bien justement, à Granollers, donc cette fois-ci, ce sera en Espagne. Et c'est un concours européen, c'est ouvert à tout le monde, tout participant de tout âge et de toute nationalité. Voilà, alors par contre, j'ai pas les conditions exactes du concours. Je sais pas s'il faut payer pour participer. Et s'il y a des contraintes, à Boulogne par exemple, il y avait une contrainte, putain un temps, je sais pas si elle est encore, ou si ton jeu est édité entre temps, tu dois le retirer du concours. Ce qui est un peu dommage, mais...
Oui et non, si c'est un concours de jeux créateurs, c'est un peu normal que si tu te fais éditer, t'es pas le...
Ouais, mais que tu présentes pas un jeu édité, je comprends, mais que en parallèle de ta présentation, parce que tu vois, tu prends ton jeu début mars et tu vas savoir qu'en septembre si tu as gagné, c'est normal qu'entre temps t'aies envie de débaucher, t'aies envie de proposer ton jeu à des éditeurs et éventuellement décrocher un contrat. Voilà, et donc toutes les informations sont sur www.europaludi.com.
Ouais, ça permet à chacun de tenter sa chance. Et puis voilà.
Belle conclusion.
Alors je dis, c'est bien parce que ça va permettre aux gens de tenter leur chance et puis d'être reconnus. Il faut savoir que quand même, le palmarès 2011, c'était le 30e concours de Boulogne, a primé, roulement de tambour.
Le premier ?
Oui.
Allez. Le livre à la tortue ?
Non, Antoine Boza.
Hein ?
Eh oui.
Ça, super, ça fait plouf.
Le Centre National du Jeu de Boulogne et son concours de créateurs a quand même pas mal de portée. Alors je ne sais pas si c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, mais dans les primés de cette année, on a Antoine Boza avec Tokaido. Et dans les primés de l'année dernière, on a Bago de Bernard Claoui, donc un auteur qu'on ne connaît pas, mais qui va être réédité bientôt chez Istari. Et puis dans les primés de l'année dernière, on a aussi Chronos qui a donné Witty Chronos. Donc voilà, donc c'est une pépinière, c'est bien, c'est bien.
Oui,
donc,
oui, il y a eu plein de jeux comme ça avec le temps qui ont été promus après Boulogne.
Bah, ça veut dire que c'est une belle façon de se démarquer.
Être primé à Boulogne, c'est en général, c'est derrière être sûr d'avoir un contrat avec un éditeur.
Petite dernière news, j'aime beaucoup Frédéric Moyerson. J'aime beaucoup parce qu'il a fait des choses que j'apprécie comme Cache Mouton chez Gigamic. Ne t'en va pas. Je veux que tu réagisses à cette news.
Ah pardon.
Il a enlevé son casque, c'est ça. Il croyait qu'il pouvait aller
chercher une boîte pour la news d'après.
Ou je sais pas. Et donc Frédéric Moyerson est l'auteur de Saboteur. Tu connais cette
Moi j'ai saboté ta news.
Tu connais ce jeu, Jérémy?
Oui.
Donc Saboteur, c'est un jeu coopératif avec des félons,
mais pas trop.
C'est ça.
Mais avec plusieurs éditions, il y a eu plein d'éditions en plus avec le 2.
Bah, qu'il y en a eu deux. Il y a eu Saboteur et Saboteur 2. Alors, à ton avis.
Mais après, ils ont fait, ils ont fait des extensions, ils ont fait une boîte avec un peu de tout.
Alors, à ton avis, combien une petite, petite boîte qu'on met dans sa poche avec quelques cartes, combien en a-t-il vendu?
1 million?
Ah non.
Moins?
Moins.
Ah, bah, tu vois, donc c'est pas un si gros succès.
Pour un jeu comme ça, moi, je, j'aurais jamais dit qu'il en avait vendu autant.
100 000?
L'année dernière, en 2011. Il en a vendu 130 000.
Ouh la vache, pas mal. Hein.
Ouais, cumulé Saboteur plus Saboteur 2, il en a vendu 480 000.
Juste l'année dernière?
Non, non tout. Tout cumulé.
480 000.
C'est un jeu qui, a été, qui est disponible en 21 langues, qui a été le, dans les tops des ventes en France, au Benelux, en Allemagne, aux USA et aussi dans les États baltes. Donc voilà, donc on se posait des questions, on a dit là, il y a 15 jours, enfin la semaine dernière, là pour le coup c'est la semaine dernière, on a dit la semaine dernière que, y avait assez peu de jeux qui passaient la barre des 3, 5 000 exemplaires.
Ouais.
Je pense que les 6 qui prend, les,
ah bah,
les Bonanza, c'est quand même, ils explosent quand même que ce
bah, c'est
ce
sur chiffre-là. Du petit budget donc c'est plus facile déjà.
Ouais, bah, je sais pas, vendre 10 000 Agricola à 40 euros ou vendre 480 000 Saboteur à 10 euros. Je crois que je vais me mettre à faire un petit jeu de cartes. La semaine dernière, on vous a privé de Gus. On avait prévu une petite participation de Gus, de Gus & Co. Et puis, elle est arrivée un petit peu tard, on ne l'avait pas écoutée, et au moment de l'intégrer, on s'est dit que c'était un petit peu dommage de l'intégrer sans réagir, donc on vous la livre aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de Gus la semaine prochaine, il sera aux antipodes, il s'est marié. Félicitations, Gus.
Bon voyage.
Et bon voyage. Et pour l'instant, bah, donc, c'est son intervention.
Sa prochaine intervention. Quel jeu il a choisi pour ses bagages et pourquoi?
Eh bien voilà, donc là il t'a entendu, donc bon. Donc on vous passe ça et on réagit juste après.
Bonjour les auditeurs, bonjour Jérémy, bonjour Olivier, c'est Gus de gusenco.net. Aujourd'hui pour ma troisième intervention dans ProxyJeu, je vais commencer par vous poser trois questions. La première, depuis combien de temps pratiquez-vous le jeu de société moderne? La deuxième, combien de jeux de société achetez-vous par année? Et puis la troisième, combien de temps passez-vous à jouer à des jeux de société par mois? Alors si à ces trois questions vous avez répondu par des chiffres élevés, comme moi, vous faites partie de ce public cible dont je parlais aujourd'hui et qui tombe dans ce concept d'overplay. L'overplay, voilà, encore un terme anglo-saxon, décidément, après la gamification et le fun, j'aime bien les termes anglais. Donc l'overplay, c'est quoi? C'est le fait de trop jouer. Alors l'overplay ne considère pas du tout des phénomènes d'addiction ou donc de dépendance au jeu. Non, non, pas du tout. L'overplay, c'est le fait de beaucoup et de trop jouer. Et puis l'une des conséquences premières, c'est finalement la lassitude. Parce qu'à force de jouer, on retrouve des mécanismes qui se retrouvent à gauche, à droite, et puis on attend plus, on devient un petit peu blindé. Je vais vous donner une petite anecdote comme exemple. Il y a 3 mois, je suis parti à Essen, donc en octobre 2011, et là j'ai réalisé que finalement, octobre 2011, SN n'avait pas été une grande année. 700 jeux avaient été présentés, mais finalement, les jeux n'étaient pas démentiels et c'était pas une grande année. Mais je me suis posé la question dernièrement de savoir comment est-ce que c'était possible que 700 jeux soient présentés et que malgré ce chiffre incroyable, ben voilà, c'était une année finalement assez morne. Donc je me suis dit que peut-être que ma perception des choses était un petit peu biaisée, et c'est là que j'ai réalisé que finalement l'overplay était vraiment une tendance assez forte, parce qu'à force de jouer énormément, d'avoir beaucoup de jeux, d'être tenu informé, finalement on commence à être un petit peu lassé par des mécaniques bateaux qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, et puis c'est pas facile d'être émerveillé par un jeu qui présente de nouveau des objectifs secrets, de nouveau des majorités, de nouveau des enchères, des mécanismes qu'on a vus dans beaucoup d'autres jeux précédemment. Les professionnels du jeu ont un petit souci à se faire parce qu'ils ont en fait 2 publics à sustenter. Ils ont un public de noobs, donc des joueurs qui achètent très peu de jeux, qui découvrent la plupart des jeux, et puis un public de gamers. des gamers qui achètent énormément de jeux, qui sont sur des forums, lisent des critiques, jouent énormément. Et donc, les éditeurs, les auteurs se retrouvent un petit peu le cul entre deux chaises parce qu'ils doivent essayer de sustenter ces deux publics. Alors, quand je fais une critique de jeu, et typiquement à Proxy Jeux, c'est pareil, quand on présente un jeu, il est très très difficile d'être objectif. On se doit d'être objectif parce que finalement, on essaye de présenter un jeu le plus neutralement possible. Mais finalement, notre perception des choses est quand même un petit peu biaisée parce que on a un tel bagage de connaissances ludiques que finalement, on va commencer à comparer, on va commencer à remarquer que ce jeu avec cette mécanique est finalement beaucoup moins bien qu'un autre jeu avec la même mécanique. Et puis donc, en fin de compte, la neutralité sera difficile. Mais c'est un aspect négatif que je présente là, mais il y a un aspect positif. L'aspect positif, c'est que les éditeurs, s'ils réalisent que finalement le public grandit, mûrit, les éditeurs et les auteurs surtout vont commencer à proposer des choses différentes, des thèmes innovateurs et pas seulement l'Antiquité par exemple, ou des mécaniques différentes, parce qu'ils savent que finalement le public de gamers s'accroît et qu'ils peuvent commencer à chercher, à développer, à innover, à proposer quelque chose de différent et de plus riche finalement. Voilà. J'ai écrit un article sur la gloutonnerie ludique qui est sorti il y a quelques mois en arrière, qui parle aussi de ce souci de consommation, de surconsommation de jeux, donc dans l'achat. Il y aura un lien dans Proxy Jeux. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout bientôt.
Eh ben, Gus, merci à toi pour cette intervention. À bientôt pour une nouvelle intervention. Elles sont toujours très intéressantes. Et celle-ci, comme les autres, on va réagir. Alors moi personnellement j'ai quelques petites choses à dire, j'ai bien écouté, je me suis reconnu, je suis tout à fait dans la cible de ce dont tu parles, ça fait...
T'as combien de jeux ?
Trop. Non, ça c'est facile. Sur Board Game Geek je dois avoir 500 jeux et extensions.
Donc j'en ai un peu plus en réalité.
Ouais, j'étais avec des gens plutôt gamers il y a 3 semaines... qui vont se reconnaître. Et l'un d'eux disait « Moi, j'ai 300 jeux. » L'autre habite un tout petit appartement à Paris, donc il peut difficilement entreposer 500 jeux dans son appartement. J'ai pas osé dire, tu sais, je me suis enfoncé dans mon canapé comme ça. Fait « Non, ne me posez pas la question, s'il vous plaît. » Donc, 500 jeux, je joue depuis, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Ah oui, non, je joue depuis 15 ans maintenant. Non, je joue vraiment, j'étais introduit à Magic.
Ah ouais.
Il y a une grosse quinzaine d'années. Effectivement, je joue depuis longtemps. J'ai beaucoup de jeux, je ne sais pas les revendre. Donc, j'ai beaucoup de jeux. J'en achète beaucoup et ça ne s'est pas arrangé avec le podcast. Et par contre, il faut dire que je rejoins Gus parce que lorsque mon acte d'achat, alors que mon acte d'achat était totalement inconsidéré il y a quelques années, c'est-à-dire que la première fois où je suis allé à Essen, c'était la folie et j'ai acheté tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, lorsque j'achète un jeu...
Ah bon, parce que maintenant, t'achètes plus tout et n'importe quoi à Essen.
Non, monsieur.
Non,
on peut regarder ma liste d'achat d'Essen l'année dernière. C'est totalement...
30 jeux, c'est tout à fait normal.
Non, c'est pas normal, mais on n'est pas... Enfin, on n'est pas normaux non plus, je veux dire...
Oui, non, mais je suis d'accord.
Donc, en fait, j'achète des jeux. Quand j'achète un jeu, je me demande avec qui je vais y jouer. Est-ce que je pourrais y jouer, moi? Et est-ce que c'est assez utilitaire comme achat? Tu vois, c'est moins impulsif. Alors, il y a toujours des jeux impulsifs comme Dreadfleet ou des choses comme ça. Mais il y a quand même cette petite voix qui est sur mon épaule qui dit « Et ça, alors, j'ai pas acheté Infarct, justement, parce que je me suis dit « Je ne vais pas pouvoir y jouer. » Et j'ai un self-control maintenant.
Donc, tu fais du MMM aussi.
C'est ça, tout à fait. J'achète moins, mais mieux. Et j'achète surtout des je me dis dans quel cadre je vais pouvoir le sortir, ce jeu, et voilà. Ça, c'est la première chose. Et toi, alors, Jérémy, combien as-tu de jeux dans ta bibliothèque? Toi, tu revends, donc tu fais tourner.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai, je pense que j'ai à peu près 500 jeux.
Et tu fais tourner.
Mais moi, moi je fais tourner, plus, en fait. Moi. En fait, j'achète beaucoup. En fait, malgré tout, j'aime bien, effectivement, je suis toujours à la recherche de la nouveauté. Mais finalement, je suis souvent déçu, et donc ça tourne, je revends. Je revends beaucoup, parce que de toute façon, moi, je suis cantonné, j'ai une place limitée dans mes étagères. Et donc, je réfléchis. De toute façon, des mécanismes, il n'y en a pas 50 000. Même quand on va en parler juste après, mais
oui.
Il y a des phénomènes de mode sur des mécanismes. Mais globalement, à la fin, il n'y a que quelques jeux à retenir sur chaque mécanisme qui conviennent.
Ah, mais tu...
Effectivement, je suis pareil. Je m'adapte avec qui je joue. Donc, moi je fais pas beaucoup de jeux grand public. Je joue vraiment du jeu de gestion costaud ou bien du jeu avec mes enfants. Donc ce qui fait que j'ai quelques jeux au milieu, mais quasiment sinon j'ai quasiment rien. Les contes Catan, je l'ai pas dans ma ludothèque par exemple.
Monsieur, oulala, ça manque. Oui, moi j'ai une ludothèque. Comment dire j'ai une ludothèque. Enfin, c'est une ludothèque. Tu vois, c'est pratiquement une ludothèque idéale.
Moi, j'ai tout.
J'ai des jeux que je ne peux pas revendre parce que je me dis, ah ouais, mais les colons de Catan quand même.
Non, ouais. Bah les colons.
Bon, passons.
Et rien que pour mes enfants, il y a à peu près 60 jeux.
Oula.
Ouais,
il y en a un peu moins, ouais, quand même.
Ouais, non, mais il y a tout dedans. Hein. Je veux dire, il y a du petit jeu de cartes, il y a du machin. Mais en fait, le jour, j'ai regardé, j'ai compté et ouais, je suis entre 50 et 60 jeux. Je me disais, avant, je disais, ouais, ils ont 30 jeux, mes enfants. Et en fait, non, ils en ont beaucoup plus. Mais il y a du jeu, on verra, on va en parler après avec les jeux coopératifs. Enfin, il y a vraiment de tous les niveaux et en plus de tous les âges, quoi.
Et puis, monsieur, il joue à Indonesia, il fait du Rodden Boats avec ses amis.
C'est ça.
Voilà, donc okay, voilà, on peut pas lutter. Est-ce que tu es blasé? Parce que ça me choque un peu quand quelqu'un dit je suis blasé. Moi, ma vision des choses, et vous l'avez certainement compris quand vous avez écouté le dossier sur Essen, ben, je suis pas blasé en fait. Je me dis que effectivement, on peut pas. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire que c'est un salon où aujourd'hui il y a beaucoup de choses, et même s'il n'y a pas une perle comme un Dominion. Eh ben, on a quand même une qualité globale qui est ouais, importante, et on a quand même de belles choses.
Je suis d'accord. On n'a pas forcément eu des perles à Essen, mais on a eu quand même un sacré paquet de jeux qui sont de très bon niveau. Après, non, moi je suis pas blasé, mais effectivement, dans les nouveautés, bah, tout ne va pas forcément.
Mais ça, c'est normal.
Bah, je revends, ouais, c'est pas grave, moi ça me gêne pas. Mais c'est vrai que finalement, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, on a encore refait un Puerto Rico. Il y a des jeux, par contre, c'est des incroyables.
Oui, c'est ça.
Puerto Rico, j'aurais toujours plaisir à jouer, quoi, n'importe quand. Bon, mais si... ouais, mais j'aime bien jouer aux jeux nouveaux. Après, je fais 5 parties, même pas, et puis je le revends sinon. Mais c'est pas grave. Si quand je le revends, ce jeu, en général, c'est rare qu'un jeu, au bout d'une partie ou deux, je me dise, ah non, il est vraiment pas fait pour moi et je le revends. Souvent, en fait, je vais jouer jusqu'à ce que j'ai atteint les limites du jeu, c'est-à-dire que j'ai trouvé comment j'ai réussi à dompter le jeu. Mais c'est dommage
la
quand
magie
on.
Magie du jeu, ce.
Ouais, c'est ça. Fasse. Mais quand on dompte un jeu au bout de 3 parties, c'est vrai que c'est pas blasant, mais c'est dommage quand même. Une petite déception.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que une ludothèque, en fin de compte, la ludothèque idéale, moi, je ne sais, enfin, je m'attache au jeu. C'est-à-dire quand je regarde ma ludothèque, je fais, oh là là, Notre-Dame, c'était bien, j'ai joué avec machin et bidule, c'était super sympa, j'étais submergé par les rats, c'est incroyable. Enfin, tu vois, je me raconte une
bonheur.
Histoire. En fait. Mais
submergé
oui.
Par les rats, c'est du
non,
bonheur.
Non, non, mais c'est, enfin, si tu veux,
non,
c'est.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des jeux, je ne peux pas. Voilà. Je les rejouerai peut-être pas, mais je peux pas me résoudre à m'en séparer parce qu'il y a des souvenirs, des sentiments, on va dire, attachés.
Et par contre, je pense qu'une ludothèque idéale, il y a 50, moins de 100 jeux. Il y a moins de 100 jeux. Parce que tu prends le meilleur de toutes les catégories, tu le fais tourner, c'est-à-dire que t'as Brass, puis après t'as Age of Industry, et puis tu.
Ah, mais moi, justement, j'ai acheté Age of Industry, j'ai revendu Brass.
Ouais, tout à fait.
Je vais tourner. Mais après, si je vais garder 50 jeux, je pense que je peux me prêter au truc. J'en garderai plus que 50, me connaissant, mais.
Et par contre, mon cher Gilles, je ne suis absolument pas d'accord avec toi sur la réutilisation des mécanismes. Je pense qu'on peut faire du neuf avec de l'ancien. Et j'ai deux exemples. C'est A Few Acres of Snow et Quarriors. C'est-à-dire, c'est mes deux jeux de l'année 2011. Et A Few Acres of Snow, en termes de deck building, c'est incroyable.
Ah, c'est pas du tout pareil que Dominion, mais ça reste
non,
le deck building.
Non, mais voilà. Alors,
ça a transcendé le deck building.
C'est ça. Tu as tout à fait. Tu utilises le bon mot, c'est transcendé. C'est-à-dire que tu prends quelque chose et tu vas le rendre meilleur encore. Mais oui, transcendé, c'est ça en fait.
Ouais. Mais voilà, ça dans ton sens. Parce que moi, je suis pas bon pour Fury Cross. Le problème, c'est que quand t'as raté ton début de partie, t'en pleures comme pas possible et tu remontes pas, quoi. Mais.
Et non, mais t'en refais une autre.
Ah bah oui, au bout de 2 heures.
Bah, au bout de 2 heures, ça va. C'est pas Dominion. Et Quarriors, qui a réinventé le genre, alors que d'autres s'étaient embourbés dedans. C'est-à-dire que, effectivement, on a parlé de Nightfall, on a parlé de tous ces deck building.
Quarriors, en plus, il est à la croisée des deux modes du moment, qui sont les jeux de dés et les jeux de deck building.
Voilà.
C'est ce qui fait qu'à mon avis, ça marche encore plus fort.
C'est court, c'est fun, ça a suffisamment de hasard pour plaire à tout le monde. Et surtout au grand public. Alors les noobs.
Non, mais
c'est pas très gentil, mais bon. Non, ne prenons pas ce mot dans son acception lolien. Voilà. Donc oui et non en fait.
Mais je fais déjà un peu du MMM aussi. Ça fait des années. De toute façon, tout le monde le fait.
Et je pense
à certains niveaux.
Ouais, t'arrives, t'es effectivement glouton quand t'arrives dans le hobby, comme dans tout le
quand
t'as envie de.
Moi, j'ai fait une coupure dans le jeu. J'ai beaucoup joué dans les années 90. J'ai arrêté avant la fin des années 90. parce que voilà, mon groupe avec qui je jouais s'est disloqué à fin des études et tout.
Et après, t'as eu 40
ans. J'y suis revenu fin 2002-2003, je suis revenu au jeu. Et ben du coup, le fait d'avoir raté toute cette production de jeux, les Tikal, les El Grande, les Puerto Rico...
Tu t'es pas arrivé dessus ?
Eh ben si, forcément. Du coup, j'ai refait une ludothèque incroyable de tout ce que j'avais raté, quoi. Mais au bout d'une fois que t'as passé tout ça, ben après, t'as plus qu'à suivre le flux, l'actualité. Mais c'est vrai que quelqu'un qui débarque maintenant dans le jeu, ben, il a vachement à découvrir avant de sport. En fait, il vaut mieux qu'il redécouvre les vrais classiques sur ces 10 dernières années avant de vraiment se ruer sur la toute dernière nouveauté qui, finalement, ben, c'est juste parce que l'éditeur, il a besoin de continuer à produire des jeux, mais qui ne révolutionne pas le truc.
Donc, tu veux dire qu'il faudrait qu'on fasse un dossier...
Les grands classiques. Ouais, moi je pense qu'en fait, des fois, au lieu de parler des jeux de la quinzaine, on va parler de chaque fois de représenter un grand classique.
Ok, bon, bah écoutez, on le note. On le note.
Et puis, mais
dernier... c'est... Oui, non, mais vas-y.
Non, parce que après, je passe à un autre truc.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que. Enfin, le mot gloutonnerie, qui est un anglicisme, je pense, il reflète bien ça, quoi. C'est, tu vois, c'est la gourmandise. C'est je mange jusqu'à satiété. Après, j'ai plus faim. Enfin, j'ai pas faim. Je mange quand même. Et après, je suis dégoûté.
Ouais, mais c'est pareil pour tout. En fait, on parle de l'overplay, mais il y a l'over, je sais pas quoi, dans le cinéma. C'est pareil. Tu regardes des films. Ok, tu peux regarder des films divertissants. Tu vas aimer si tu en regardes de temps en temps. Par contre, quand tu commences à regarder tout le temps, je pense que tu vas être de plus en plus exigeant en matière de films. C'est pareil avec les bouquins. C'est pareil avec tout. En fait.
Moi, c'est le boulot qui me fait ça.
Ah ouais.
Je suis un peu dégoûté.
Ça aussi,
moi, trop, en fait.
Ça, c'est différent. Voilà.
Et toi, cher auditeur qui nous écoute régulièrement, tu sais qu'on t'a teasé un petit peu avec une tuerie.
Le prochain concours.
Je pense qu'après ce concours, on ne refera plus de concours comme on a pu faire nos concours.
On ne dit jamais ça parce que si, on en refera sans doute.
On en refera sans doute, mais voilà. Alors, autour du 20 février, c'est la date à laquelle vous allez écouter ce podcast. On va mettre en ligne un super concours. On ne parle pas d'un concours où vous aurez à répondre à juste 5 questions. On parle d'une réelle énigme. Cher auditeur, on va vous faire gagner 2 Sherlock Holmes Détective Conseil. Et pour ça, il faudra participer à une énigme.
Ça se mérite, hein, Sherlock Holmes.
Ça se mérite. C'est très simple et c'est ouvert vraiment à tous. Donc vous qui n'aimez pas les énigmes, je vous conseille quand même d'aller voir sur la page du concours, d'essayer au moins de glaner quelques informations parce que tout le monde a sa chance, mais vraiment tout le monde a sa chance. J'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous le 20 février. De toute façon, si tout se passe bien, vous saurez que le concours est en ligne. Si vous êtes abonné à notre RSS, si vous êtes abonné à notre page Facebook ou à Twitter, vous saurez que c'est en ligne. Et puis si vous n'êtes abonné à rien, eh ben guettez. Et puis... je vous invite très fortement à participer à ce concours. Allez Jérémy, les événements, parce qu'il y en a pas mal en mars. Il y en a aussi beaucoup en février.
C'est pas la peine, ce sera trop tard.
Non, en février. Alors, d'abord, je voudrais commencer par un événement qui n'est pas un événement à proprement parler. C'est l'ouverture d'une boutique à Auxerre, en Bourgogne. La boutique s'appelle Carte sur Table. Elle se trouve le 28 rue Fécaudry. Et voilà, donc c'est une boutique qui est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h. Une boutique de jeux de société. Allez la voir, allez lui rendre une petite visite. Dites-nous ce que vous en pensez, les gens qui sont vers Dijon ou vers Auxerre, si vous pouvez vous déplacer. Et puis, voilà.
Et puis... Alors, c'est déjà la 20e édition, maintenant, quand même. On parle toujours qu'il y a Cannes en février, mais il y a aussi un autre festival important qui se passe dans la région nantaise, c'est à Saint-Herblain. C'est le festival Faites vos jeux de Saint-Herblain, qui a la particularité, notamment, donc, bon, toute la ville le joue, on vous donnera le lien vers le site pour découvrir tout ça, mais la particularité de Saint-Herblain, c'est de permettre au public de voter pour un jeu qu'il a aimé. Alors, il y a un jury qui fait une première sélection de jeux, et ensuite, ces jeux peuvent être joués dans un certain nombre de lieux, et le public note les jeux auxquels il a joué. Et à la fin du festival, donc, le prix du public est attribué ainsi au jeu qui a été le plus apprécié par le public. En sachant, je crois que le jury a aussi sa part dans la note. Et par exemple, pour vous citer un jeu dont on a parlé dans l'émission et qui a déjà eu son prix du public à Saint-Herblain, c'est Saboteur.
Pas mal. Ça m'étonne pas, c'est tout à fait un jeu qui plaît au grand public et étant donné que c'est facile à mettre en œuvre. Je pense que ça marche dans ce cadre où c'est facile à essayer, donc facile pour voter de.
Voilà, puis en plus, c'est rapidement joué.
Voilà.
Et donc, le festival, donc, ce sera la 21e édition pardon, cette année, qui aura pour thème le rêve américain. Et ce sera donc du 12 au 26 février à Saint-Herblain. Voilà, on vous donnera le lien avec tout le programme.
Sur Proxy Jeux. Le 3 et le 4 mars prochain en 2012, les 24 heures du jeu de Nogent le Rotrou. Alors c'est l'association, c'est la ludothèque associative Ludoperche qui organise ça. C'est de 7 à 77 ans, entrée gratuite et plein de jeux société, plein de choses comme ça. Donc ça se passe à la salle Saint-Signoret de Nogent le Rotrou, 28 400. L'entrée est gratuite, plein de jeux société, sur place, vente de boissons, vente de sandwichs. Et c'est tant mieux parce que c'est 24 heures du jeu non-stop, donc il va y en avoir besoin. Et pour finir, on va parler un petit peu des écrans, Jérémy.
Alors on va aller vite sur les écrans. Parce
oh,
que...
on a le temps ce soir.
Ouais, c'est déjà minuit 20. J'aimerais bien me coucher.
Donc on va commencer. C'est que des petites brèves hein. Aujourd'hui, on va pas parler d'application en
oh
détail.
Bah, si, la Magic Toolbox quand même.
Non, mais c'est vite parlé. Je vais vous présenter tout d'abord la version Les Aventuriers du Rail Pocket, donc la version pour iPhone, iPod, qui accueille enfin, diront certains, un mode multi. Donc ça vous serait, vous pourrez enfin jouer contre des adversaires, même peut-être éventuellement plusieurs parties en parallèle, à travers le Game Center pour trouver des adversaires, mais aussi en mode réseau local, donc à travers réseau Wi-Fi ou le Bluetooth. Voilà, évidemment, l'application, je vous rappelle, Les Aventuriers du Rail est sur iPhone, elle est vendue 79 centimes sur l'App Store.
C'est bien le jeu qui... c'est juste une version en plus de la version iPad qu'on repaye, c'est ça, et qui n'est pas universelle.
C'est ça.
Ouais, que j'ai boycotté, donc.
C'est ça.
Voilà.
Et je sais même pas si on peut jouer entre iPhone et iPad.
Quoi ?
Bah non, j'ai pas d'iPhone. Pas
alors, on vous a parlé de Carcassonne la semaine dernière. Au moins, Carcassonne, quand vous l'achetez, c'est universel. Ça coûte 8 euros, mais au moins, vous l'avez payé. Et vous
oui, bah regarde, l'aventurier du rail qui paye 5,49€ plus 79 centimes, ça coûte moins cher que 8 euros.
Plus les cartes. Les cartes, elles sont payantes aussi.
Ah oui, oui, bah c'est pareil dans Carcassonne. Hein. Il y a des extensions. Après, il y a du Winup. Bah oui, les extensions, la rivière. Non, oui, la rivière et. Si, si.
Si, si. Donc,
Carcassonne pour iPhone c'est... et iPad, c'est aussi payant.
Hors de prix, c'est hors de prix.
Voilà.
Oui, mais au moins tu peux jouer entre iPad et iPhone.
Bref.
Non, je suis pas content auprès des vendeurs. Ils auraient dû mettre leur appli à 8 euros et puis te mettre dedans.
Quand vous nous écouterez, la version Timeline devrait être sortie. Je dis devrait, puisque normalement elle devrait être présentée à Cannes et vous nous écouterez juste après le festival de Cannes. Donc l'application devrait être disponible sur l'App Store. On ne manquera pas de vous faire un retour dès qu'on aura pu y jouer.
Ah, il va sortir le 9 février prochain.
Donc, oui. Donc quand vous nous écouterez, il sera sorti.
Bon, quand vous écouterez, il sera sorti. Hive, bah, vous connaissez le principe, c'est un jeu à deux sur le thème des insectes. C'est un très bon jeu pour...
Oui, on a parlé dans l'épisode précédent.
Ouais, voilà. Bah, je peux quand même dire que c'est un très bon jeu.
Ah oui, oui, carrément.
Donc on ne sait rien encore du portage sur iPad, si ce n'est qu'il y a un portage non officiel qui s'appelle Anto, qui peut vous donner un petit peu le goût, mais bah, je vous conseille quand même d'attendre le portage
sur iPad. Anto, il est gratuit quand même. Il faut juste en profiter avant qu'ils disparaissent. Par contre, les insectes ont changé, c'est devenu d'autres animaux, les papillons, les machins.
Ouais, mais j'aimais... Enfin, voilà.
Et pour la petite histoire, parce que j'aimais la petite histoire, il y avait une version Hive qui était disponible sur l'App Store, mais je pense qu'il a subi quelques pressions, c'est une version non officielle et qui a été retirée en 2011. Mmh. Mais pourtant, il y a encore Anto qui survit, donc c'est assez étonnant. Mais je pense que c'est parce qu'elle est gratuite, celle-là, que du coup, l'éditeur a jugé...
Puis ça va pas durer, ça va pas durer.
Voilà, c'est pareil, donc Hive, on manquera pas de vous faire un retour dès qu'on aura pu le tester. Et puis, je voulais vous parler de la Magic Toolbox. Donc.
Alors, c'est Magic the Gathering Toolbox.
Voilà, c'est Magic l'assemblée de Toolbox. C'est une application officielle par Wizard. Alors, il en existe déjà des tas d'applications pour gérer ce fameux jeu de cartes à collectionner. Il était temps que Wizard sache la sienne. Il a eu la bonne idée de la faire gratuite. Alors, je dis c'est sur iPhone et iPad. En fait, c'est que pour iPhone, mais donc forcément, ça marche sur l'iPad.
En fois deux.
C'est bientôt sur Android, à ce que promet Wizard. Le principe de cette petite application, gratuite je le rappelle, ça permet en cours de partie d'avoir un compteur de points de vie. facile à faire, mais c'est vrai, comme je dis, il y avait déjà plein d'applications qui le faisaient. Quand je vais au tournoi Magic, il y a déjà plein de joueurs qui sortent le smartphone au milieu de la table et qui comptent les points de vie.
C'est fini les dés? Moi j'avais un.
Si, si, il y en a encore plein qui vont avec les dés. Moi je fais avec les dés. Moi je fais avec les dés, mais il y en a plein qui font ça aussi. Faut quand même savoir qu'au tournoi, on y va des fois, les joueurs, ils ont même pas de dés, ils ont rien, quoi. Ils ont même venus les mains dans les poches.
Ah, c'est marrant.
Il y en a plein, ils arrivent avec le bloc, encore le bloc papier et le stylo, hein, pour la modernité.
Non, mais c'est marrant parce qu'on parlait dans les commentaires d'Ipone. On disait oui, quand même, non, parce que quand même. Bah voilà.
Super, super intéressant, Olivier.
C'est motivé, hein, mais c'est mieux. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est qu'il y a des gens qui vont arriver. Nous, on est attachés au dé. On est attachés au dé, et quand il y a des gens qui arrivent avec leur smartphone, enfin des jeunes gens, je suppose, qui arrivent avec leur smartphone, qui le posent sur la table et qui comptent avec, on se dit ouais, bon, d'accord, mais rien ne remplacera le dé. Ben si.
Moi, j'aime bien un petit boîte d'allumettes surtout. Voilà. Pour faire les compteurs. Mais par contre, par exemple, elle est dépassée là-dessus puisqu'elle ne compte que les points de vie. Or, il y a régulièrement dans Magic
des jetons.
Pas forcément des stratégies qui gagnent. Non, bah, il y a les jetons, mais les jetons, tu as toujours un moyen de marquer les jetons sur les jetons.
Ah bon ?
Mais surtout, c'est les marqueurs poison. Tu perds la partie quand tu as reçu 10 marqueurs poison.
Ouais.
Et l'application ne gère pas les marqueurs poison.
C'est nul ?
Ouais, c'est étonnant de la part de Wizards, quoi. Donc, alors que d'autres applications le gèrent, mais bon. L'autre intérêt de l'application, on peut gérer son deck. Ok, admettons, on peut créer son deck, etc. Non, faut être patient, Olivier, c'est long à charger. Et puis, on peut aussi, par contre, beaucoup plus important, pendant une partie, bah, c'est régulier, on se pose une question sur une carte. Parce que bah, le jeu a quand même 18-19 ans, ça a pas mal évolué dans le temps, les règles ont changé, etc. Et donc, il y a l'Oracle, notamment, ça s'appelle l'Oracle, qui est un site de référence avec les textes des cartes mis à jour. Et du coup, on peut accéder à ces textes à travers l'application, donc ça, c'est pratique.
Offline ?
Non, online. Et le problème, moi, je pense qu'ils vont devoir rapidement corriger l'erreur, c'est-à-dire que quand tu arrives pour regarder une carte, pour faire la recherche de cartes, eh ben, tu peux pas tout de suite, parce qu'il faut attendre qu'il ait téléchargé déjà la liste d'un certain nombre de cartes, commence par A, t'en as rien à foutre.
Alors, si tu cherches Zephyroth, par exemple.
C'est ça.
Bah
Non, tu peux taper ton texte après pour filtrer. Mais par défaut, il charge quand même un certain nombre d'enregistrements au départ. Et en plus, tu ne peux pas annuler le chargement, donc ça bloque l'application.
Ah, tu veux dire comme là, maintenant?
Bah là, il était en train de lancer l'application, donc là, il télécharge, je pense, plein de
trucs. Non, mais attends, toujours là, à chaque lancement d'application, il va me faire ça?
C'est un peu long, là, le lancement. Bah, c'est un diesel, quoi, je pense. Faut le temps qu'il chauffe.
Puis il fait froid dehors, alors.
Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que fait l'application en plus.
Attends, c'est juste compteur de points plus te renvoyer vers la base.
Okay. Ouais, construction de deck. Voilà, bah bon, j'en espérais beaucoup.
Ah, mais attends, construction de deck, t'en as pas parlé de ça?
Bah, j'ai juste dit qu'on pouvait construire un deck, mais j'ai pas essayé. Enfin, franchement, c'est pas genre truc que je vais faire, quoi. Construire son deck dans une application, je suis même pas sûr que je puisse le partager facilement.
Alors, est-ce que par exemple, tu peux dire, tu parles des poissons, est-ce que tu peux par exemple dire. Cite-moi dans telle et telle extension toutes les cartes qui ont du poison. Ça pourrait être sympa, ça.
Alors, il y a très très peu de poison, en fait.
Non, mais d'accord. Oh là là.
Non, mais je comprends tout à fait. Non, mais du coup, la réponse est là. Tu peux... oui, je sais pas si tu peux chercher une carte avec les poisons. Voilà, donc au final, une application que j'attendais, parce que je trouve qu'il y a quand même, il existe déjà des choses pour filtrer les cartes, etc.
Non officielles.
Ouais, non officielles, payantes, mais pas très chères. J'espérais mieux que ça de la part de Wizard, évidemment, vu le temps qu'ils ont mis pour la sortir, cette application. Je pense que maintenant que Wizard a fait quelque chose, ils vont aller plus loin, ils vont perfectionner tous ces petits bugs, tous ces petits reproches qu'on peut faire à l'application, et ça va être amélioré dans les prochaines semaines, je n'en doute pas.
Ouais, il y a des choses que tu n'as pas dites, par exemple, il y a un calendrier, il y a un agenda des événements. Bon, après, si t'es pas américain.
Oui, c'est pour ça que j'en ai pas parlé.
C'est pas, c'est peut-être. Ouais, non, mais.
Il y a un store locateur aussi, tu peux savoir les magasins si un jour t'es aux États-Unis. Mais
voilà, ça veut dire que c'est plus une application qui est tournée vers les US, qui est plus destinée aux US où tu vas avoir ton truc et tu vas te dire où est mon magasin préféré, où je suis dans une ville que je connais pas. Tiens, qu'est-ce que je peux faire autour de moi, quoi.
Bah, tu peux la franciser quand même, l'application,
ah
mais
bon,
ça francise pas les événements.
Mais tu peux trouver les...
Tu...
Ah, mais c'est moche, ça sort de l'appli.
Mais tu vois tous les événements majeurs, en fait.
Il
y a le Grand Prix, il y a le Grand Prix de Lille, il y a le Grand Prix... Enfin, c'est tous les Grands Prix, en fait. C'est les principaux gros événements, effectivement. Ça peut mettre le petit événement à ta boutique du coin. Dans ces cas-là, il vaut mieux que tu te rapproches de ta boutique du coin. Ou bien, on verra d'autres solutions plus tard.
Ouais, je pense qu'il faut de toute façon toujours se rapprocher de sa boutique du coin, ou alors attendre... plus tard. Bon, bah écoute.
Non, il me reste un truc quand même.
Ah bon ?
Ouais, il faudra que tu le lis ailleurs.
Il s'agit de l'application du sponsor.
Quoi ? Comment ça ? Ah oui ! Notre sponsor Ludic Bazar, merci.
Et puis
à
notre...
lui.
Oui, voilà, remercions Ludic Bazar au passage quand même.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc on ne saurait jamais le répéter, trop le répéter. Allez voir Ludic Bazar, ils ont des bons plans, surtout en ce moment, période de soldes. Si on est fidèle à Ludic Bazar et qu'on a déjà commencé à consommer un peu chez eux, on a facilement 5, 10, 15% de réduction et on aligne les prix vraiment vers le bas. Et on est parfois même, c'est même parfois plus intéressant que chez d'autres concurrents. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir notre sponsor. Et puis
ils ont sorti une petite application Android pour leur boutique.
Android. Damned. Je ne peux donc pas l'installer.
Et non, pour une fois.
Eh ben, mince.
Il s'agit de.
J'ai pas dit what the fuck. T'as vu, j'ai pas dit what the fuck.
Bah non, on a dit qu'on arrêtait les vulgarités. Voyons.
Voilà. Après, il va falloir qu'on mette explicite dans notre podcast. Donc voilà. Donc Ludic News.
Voilà, Ludic News.
Pour les heureux possesseurs d'Android qui ne peuvent pas jouer, mais qui peuvent. En fait, ils peuvent pas jouer sur leur.
Leur téléphone, mais ils peuvent acheter des jeux. Donc en fait, l'application, elle permet de voir les nouveautés, tout simplement. Dans chaque catégorie, jeux de rôle, jeux de société, wargame, etc., les comics, les jeux de figurines. On peut donc voir les nouveautés au catalogue. Tout simplement, ça affiche les 10 dernières nouveautés. Et quand on clique dessus, ensuite, on peut avoir le détail de la fiche du jeu. Mais pour l'acheter, il faut se rendre sur le site de Ludic Bazar. Si vous voulez être sûr de ne pas rater les dernières sorties ou bien les derniers déstockages de la boutique, voilà, c'est l'application qu'il vous faut. Le reste de l'application vous présente simplement les magasins, notamment rue Meissonnier, et puis tous les pointeurs pour contacter la boutique.
Bon, encore un numéro bien rempli, Jérémy.
Oh là, m'en parle pas.
Alors je pense que
on a explosé
les compteurs, mais comme d'habitude. Alors ça va faire un, en fin de compte, ça va pas faire un numéro trop gros. On a essayé de faire des brèves qui soient vraiment brèves, et puis on a fait un super dossier qu'on mettra à part, donc ça va équilibrer un petit peu tout ça. Messieurs dames, n'oubliez pas le concours Sherlock Holmes Détective Conseil qui sera en ligne à peu près au même moment que cette émission. Un super concours, je ne saurais vous recommander d'aller y jeter un œil, même si le jeu ne vous intéresse pas, si vous aimez les énigmes, si vous aimez même Sherlock Holmes, allez-y. N'ayez pas peur de ne pas découvrir ce que vous avez découvert, parce que c'est une énigme un peu à tiroir. Vous pourrez répondre, de toute façon vous pourrez répondre, donc n'hésitez pas à aller voir.
C'est pas un QCM, oui, les questions sont...
Non, c'est pas un QCM, c'est pas non plus une énigme à se tirer les cheveux en se disant qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, si, y a une partie qui est comme ça, mais il n'y a pas que ça, ce qui vous permettra de toute façon de participer. Et en attendant, n'hésitez pas, un commentaire sur iTunes, quelques commentaires sur le site, et puis jouez. En attendant le prochain émission, on vous dit...
Jouez bien.